Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Binge Audio présente.
Bonjour Okaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Comme vous le savez, ici nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs.
Et aussi, comme vous le savez peut-être, dans Kif Taras, on vous partage souvent des ouvrages que nous avons appréciés, qui nous ont touchés dans nos émotions, qui nous ont portés dans nos réflexions. Ils sont souvent classés par type, essai ou fiction, journalisme ou écriture créative, d'après une histoire vraie ou d'après une histoire fausse, qui sonne très vraie. Alors, ces catégories rigides sont parfois floues et ce sont parfois les mêmes personnes derrière, portant des casquettes avec des étiquettes différentes. Cueillir les histoires, les mettre en récit, leur donner une forme, c'est le sujet de cet épisode de Kif Taras.
Et pour en parler, nous avons invité Doan Bouy. Bonjour Doan.
Bonjour Okaya, bonjour Grace.
Qui va nous faire part de son expérience et de son expertise sur la question. Alors Doan, tu es journaliste, grand reporter au journal L'Obs. Tu as reçu le prix Albert Londres en 2013. Une enquête autobiographique, Le silence de mon père, est parue en 2016. Tu es aussi scénariste de bande dessinée et tu es écrivaine. Tu viens de publier La Tour, un ouvrage de fiction qui est paru en 2022.
Exactement.
Dans Kif Taras, on a un petit rituel pour commencer l'épisode. On demande à notre invitée si elle se situe sur le plan racial. Par exemple, moi, je suis perçue comme une femme asiatique et Rokaya comme une femme noire. Est-ce que toi, Doan, tu te situes là-dessus?
Ah oui, je crois. Je n'ai pas trop d'envie de quitter là-dessus. Je me situe comme une femme asiatique. Même si souvent on me dit, mais je ne te vois pas du tout comme une femme asiatique.
Ah bon?
Bien, écoute, c'est bizarre parce que tous les jours, on me le rappelle que je suis une femme asiatique.
Et cette prise de conscience, elle a été...
cette prise de conscience, ouais. C'était depuis toujours. Parce qu'en fait, j'ai grandi au Mans, dans la Sarthe. Et pendant toute ma scolarité, j'étais la seule d'origine étrangère. Donc en fait, j'ai très vite pris conscience que ma tête n'était pas comme celle de mes camarades. Avec évidemment toujours cette espèce de... Parce qu'on est très conformiste quand on est petit, donc j'avais toujours cette volonté de regarder dans la glace et d'espérer voir quelqu'un de blond aux yeux bleus, blonde aux yeux bleus, comme les petites filles modèles dans La Comtesse de Ségur, voilà, comme les princesses dans les livres. Donc j'étais fascinée en fait par l'univers de mes camarades et j'ai très vite pris conscience de cette altérité-là.
Alors Doan, tu as reçu la récompense la plus prestigieuse du journalisme francophone, le prix Albert Londres en 2013 pour un reportage nommé « Les naufragés du rêve européen ». Européens sur, entre guillemets, les fantômes du fleuve, des migrants qui, chaque nuit, tentent de gagner clandestinement l'Europe en franchissant la frontière entre la Turquie et la Grèce. Dans ton livre « Le silence de mon père », tu racontes comment la vocation de journaliste n'a pas été encouragée par ta famille. Malgré un parcours scolaire très, très honorable, notamment dans un établissement secondaire privé au Mans, où votre famille, comme tu viens de le dire, était les seuls asiatiques du coin, tu évoques un sentiment d'imposture. Je te cite « Je suis journaliste, mais aujourd'hui encore, je peine à y croire. Ce n'était pas un métier pour moi, enfant d'immigré. Je fus à la fois sidérée et ravie de voir pour la première fois mon nom en bas d'un court article. Moi, écrire dans un journal, moi qui n'avais jamais lu Le Monde, quand je fus recrutée à L'Obs, je prétendis que mes parents y étaient abonnés depuis toujours et je cachais qu'ils avaient toujours voté Chirac. Ce détail qui me semblait malvenu dans un journal de gauche. Comment t'as navigué entre tes attentes familiales et sociales pour en faire ton métier aujourd'hui?
Alors, c'est vrai que mes parents auraient souhaité plutôt que je sois ingénieur ou médecin, enfin que j'ai une carrière plus... prestigieuse à leurs yeux et pas raconter des histoires, ça ne leur semblait pas quelque chose de bien. Et puis en plus, je pense que de toute façon, c'était difficile de me projeter dans ce type de métier. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup lu quand j'étais petite parce qu'en fait, j'étais une gamine assez, je pense, solitaire. Donc je suis beaucoup construite par la lecture. Et je pense que cette fameuse identité française que je poursuivais comme un rêve, enfin, donc cette identité de personne blonde aux yeux bleus, on pourrait dire, je la poursuivais dans les livres. Puis en fait, je voyais pas trop dans ces livres de récits qui nous ressemblaient. Donc moi, j'ai été obligée en fait de me projeter tout de suite dans cet ailleurs, qui était cette espèce d'identité française fantasmée. Et du coup, j'avais l'impression qu'en fait, d'abord, les livres, il n'y avait pas des gens comme mes parents, comme nous. Et puis en plus, les gens qui les écrivaient, ce n'étaient pas des gens comme nous. Donc en fait, c'était doublement un monde qui m'était interdit. Donc c'est vrai, je me rappelle très bien du premier article que j'ai écrit. Rien que le fait de voir mon nom, en fait. Rien que le fait de signer, ça me semblait quelque chose d'incroyable, en fait. D'écrire, donc, en français. Alors, le français, j'ai un rapport compliqué, parce que c'est évidemment, c'est ma langue. Aujourd'hui, c'est la langue que j'habite. Mais ce qui est très étrange, c'est que quand je suis arrivée à l'école, je ne parlais pas français. Quand je suis arrivée en maternelle, je ne parlais pas français. Ma langue maternelle, c'est le vietnamien. Et je me rappelle, donc mes premiers souvenirs, ce sont des souvenirs où je cherche des mots en français. Enfin, c'est cet âge où, quand on a 3-4 ans, c'est les premiers souvenirs. Et je pense que c'est les premiers souvenirs parce que vraiment le langage, tout ça se met en place. Donc j'ai vraiment souvenir de chercher mes mots en français, ce qui me semble aujourd'hui totalement fou puisque j'ai oublié ma langue maternelle. Donc, il y a eu un processus quand même d'assimilation qui est allé jusqu'au point où j'en ai oublié ma langue maternelle. Et j'en parle avec autant plus de facilité aujourd'hui que ça a été une très longue conquête pour moi. Enfin, ça fait, je sais pas, des années et des années. À chaque fois que je vais au Vietnam, je me dis, oh là là, je parle pas vietnamien. Je ressors la méthode assimile. Alors, je parle vietnamien. Je parle un vietnamien. Tu vois, le vietnamien qu'on parle à la maison, c'est-à-dire vietnamien manger, dormir. Donc, c'est très, très limité comme vietnamien. Et chaque fois, j'essaie d'apprendre. Et chaque fois, je bloquais, je n'y arrivais pas. Parce que je pense que quand c'est ta langue maternelle, c'est quelque chose... Tu te dis toujours que tu n'arriveras jamais à la parler assez bien. Et ça charrie trop de choses, en fait, par rapport à ton identité. Donc je pense que c'est pour ça que tu bloques. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, un Nabil Wakim, là-dessus, qui s'appelle La Rapport Tous, qui m'a beaucoup touchée parce qu'il raconte ça. En fait, je crois que c'est une expérience hyper commune à tout ce qu'on appelle, je sais pas pourquoi, les immigrés de la seconde génération, comme si on allait être immigrés jusqu'à la fin de nos générations. Enfin, en tout cas, les parents qui sont exilés et ceux qui sont nés en France, ceux qui viennent après, où il y a cette espèce de truc où, avec les langues maternelles, où on les a un peu mises de côté et parfois oubliées, c'est très compliqué souvent de les conquérir. Donc, j'ai mis vraiment des années et des années avant de réussir. Et en fait, il y a un an, j'ai eu un déclic et je me suis remis à apprendre le vietnamien, à reconquérir cette langue. Et c'est un voyage extraordinaire, franchement. Donc,
est-ce que la langue, elle te semble familière ou t'as l'impression de partir de zéro?
Ah non, je parle pas de zéro. Voilà. Si tu veux, c'est une langue qui m'est familière. C'est-à-dire, tu vois, les premières fois que je suis allée au Vietnam, même, c'est ça qui était le plus frappant. J'avais 20 ans et j'avais l'impression d'être toute nue. Je me suis sentie très émue parce qu'en fait, la langue vietnamienne, pour moi, c'est la langue vraiment de l'intimité, de l'enfance. C'était ma grand-mère qui le parlait, mes parents. Donc, c'est cet univers très intime de la famille. Et qui n'est pas du tout, justement, ton univers social, avec tes amis, professionnels. Et donc, de me retrouver dans un pays où tout le monde parlait cette langue si intime et si privée, je me sentais mais à la fois bouleversée et très gênée, même. Et d'ailleurs, il y a un détail marrant avec la langue, qui est que il n'y a pas de pronom personnel en vietnamien. Tu ne dis pas « je », et donc tu parles toujours en fonction de la personne à qui tu t'adresses. Donc, moi, en fait, comme je parlais toujours avec ma famille, mes parents, mes tantes, donc j'employais toujours le pronom « quand », qui veut dire « enfant », qui voulait dire « je » pour moi, même si je savais très bien que... Et donc, quand je suis arrivée au Vietnam, je disais toujours « enfant parle à... » Donc, tout le monde se fichait de ma gueule, parce qu'évidemment, quand je parlais à quelqu'un de plus jeune et que je disais « enfant », les gens éclataient de rire, mais parce qu'en fait, cette langue, elle était restée coincée pour moi, tu vois, à cet espace de l'enfance et même de la petite enfance. Et là, cette reconquête, alors c'est pour ça que j'enjoins tous nos auditrices et auditeurs qui, voilà, ont ce même parcours par rapport à nos langues maternelles. c'est extraordinaire de reconquérir la langue de ses parents. C'est quelque chose, même si on a l'impression que c'est pas familier, en fait, si, c'est quelque part dans le cerveau. Et quand j'ai commencé à le réapprendre, quelquefois je m'endormais et j'avais des mots qui sortaient dans ma tête comme des bulles de savon qui revenaient tout d'un coup. Et ça fait plein de connexions dans ma tête et je me rends compte que même ma façon d'écrire, certainement, elle est influencée par le vietnamien. Tu vois, sans même que je m'en rende compte, en fait. Parce que, par exemple, en vietnamien, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de temps. Et souvent, mon éditrice me disait, c'est bizarre, là, t'es passé du présent au passé, et re au présent. Pourquoi tu fais pas que tout au présent et tout au passé? Et je comprenais même pas la question. Je dis, je sais pas, là, ça me semblait bien au présent, puis ça me semblait bien de passer au passé. Je sais pas trop. Et je pense que c'est parce que j'ai toujours entendu ça. J'ai toujours entendu dans ma tête, quand mes parents parlaient en vietnamien, cette espèce de, tu vois, de langue fluide qui passe du présent au passé. Donc oui, évidemment, ça m'a énormément influencée dans mon écriture et puis certainement aussi dans ma façon de voir le monde.
Et cette langue des parents dont tu parles dans le livre La Tour, c'est intéressant aussi. Moi, j'ai beaucoup tiqué. Enfin, je me suis identifiée quand tu expliques que la langue qu'ils parlent, ses parents vietnamiens, elle-même, cette langue, elle est figée dans le temps. Et ce n'est pas du tout comme les Vietnamiens parlent au Vietnam aujourd'hui, mais c'est comment les Vietnamiens ont parlé le vietnamien en 1975, enfin en tout cas la date à laquelle ils ont quitté leur pays. Et cette langue même, c'est la construction, les termes, enfin, c'est quelque chose de daté. Et lorsque ton personnage parle la langue avec des personnes qui parlent le vietnamien actuel, eh bien on se moque
de lui, parce que c'est une langue gelée. Ça, c'est quelque chose qui me bouleverse, parce que c'est quelque chose que je pense que tous les exilés qui sont partis pendant longtemps expérimentent, c'est que non seulement ils ont perdu leur pays, mais aussi quelque part ils ont perdu leur langue. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une troisième langue qui a continué à être parlée par les Vietnamiens de la diaspora, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en France. Et franchement, les Vietnamiens d'aujourd'hui, alors moi, il se trouve que je prends des cours avec une prof qui est à Saigon, et la moitié des mots que j'utilise, que ma mère utilise, elle ne les comprend pas ou ça la fait rire. Et donc, en fait, les mots que je réapprends, qui sont des mots de vietnamien contemporain, quand je les utilise avec ma mère est furieuse et ne les comprend pas non plus, parce que vraiment, le langage a totalement changé. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de déchirant d'imaginer pour nos parents. Alors d'abord, ils ont perdu leur pays. Souvent même, les noms des rues ont changé. Ouais. Donc, tu vois qu'il faut chercher des vieux atlas pour retrouver la ville qu'ils ont connue. Et en plus, cette langue qui s'est évanouie, avec aussi l'impact de la colonisation aussi. C'est-à-dire que la France, quand la France a colonisé le Vietnam, il y a eu deux choses. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, c'est devenu un alphabet latin. Donc, en fait, avant, c'était des idéogrammes un peu comme en chinois. Donc, aujourd'hui, je sais pas, je dirais que c'est que les érudits qui arrivent à lire le nom, cette langue en idéogramme. Ce qui veut dire quand même quelque chose d'assez fort. Ça veut dire que les gens qui vont au cimetière, ils arrivent pas à lire ce qui a marqué sur les stèles de leurs ancêtres. Donc, en fait, ça, déjà, t'as une première coupure avec la langue et l'héritage. Et la deuxième coupure, c'est que des personnes comme ma mère, par exemple, qui a grandi à Saigon, elle a été dans des écoles françaises, donc elle avait un prénom français, qui c'était son prénom d'usage, elle n'avait pas le droit de parler en vietnamien, elle chantait la Marseillaise tous les matins. Et du coup, en fait, le vietnamien a toujours été un peu une langue, tu vois, la langue du peuple pour elle, la langue pas... Elle a lu que de la littérature en français. Et donc, son vietnamien, alors je pouvais pas trop m'en rendre compte avant d'apprendre le vietnamien, avant de me rendre compte des mots, etc., etc. Elle parle évidemment très bien couramment, mais il lui manque quand même ce vietnamien littéraire parce que, en fait, elle l'a pas appris. On lui a ôté ça. Donc ça, c'est cette deuxième rupture qui est liée à la colonisation et qui n'est pas anodine, je pense, parce que là aussi, c'est une façon d'être coupé de son héritage.
Bah, c'est vrai que la question de la langue, elle est essentielle dans beaucoup de choses qui nous traversent et elle est notamment l'expression du pouvoir. Et là, tu parles de l'exemple spécifique du Vietnam. Enfin, le fait que la Chine ait pendant 10 siècles, je crois, dominer la péninsule du sud-est asiatique et donc a imprimé sa langue sur les pays dont aujourd'hui le Vietnam, et ensuite qu'il y ait d'autres puissances extérieures qui ont été présentes et qui ont transformé aussi la langue, du fait que, comme tu dis, les Vietnamiens ont été dépossédés en fait d'un attribut essentiel de leur culture et qui aujourd'hui en fonction de la langue que tu parles et de ce que tu sais lire, on sait exactement quelle période de ta vie, enfin quelle période du pays tu relèves. Quoi. C'est...
On sait tout de ton histoire presque rien qu'en t'entendant, ce qui est assez déroutant. Parce qu'en fait, tu as l'impression que quand tu rentres au Vietnam, ben, chaque fois, en fait, tu dois dérouler toute l'histoire de ta famille. C'est assez particulier comme expérience.
Et alors, je voudrais revenir sur La Tour, hein, donc ton ouvrage, où tu part de chemin personnel pour croiser ses destins. Donc, ça se passe dans le 13e arrondissement, donc le quartier qu'on dit chinois de la ville, sur la dalle des Olympiades. Et c'est une tour imaginaire dans laquelle tu places ces personnages. Il y a 4 ascenseurs et donc ces personnes se croisent. Il y a la famille Truong, donc cette famille d'origine vietnamienne. Victor et Alice sont les parents qui sont venus après 75. Et leur fille Anne Mai, une quarantenaire, enfin en tout cas à un moment elle a 40 ans. Et des voisins, Clément, Ileana, Virgile. Et... moi, je voulais te demander comment est-ce qu'on passe du journalisme, qui est un métier que tu as appris, donc le métier où tu rencontres des personnes, tu dresses des portraits à travers des interviews, tu fais un travail journalistique, c'est-à-dire que tu rends compte de la vie des gens, notamment dans Les naufragés du rêve européen, cet article que tu as écrit, tu parles d'une tragédie de migration, et donc c'est aussi le quotidien de nombreuses personnes aujourd'hui, depuis longtemps. Et comment est-ce que tu te dis « Ah, bah, un jour, je fais du journalisme et je rentre chez moi, j'écris mon livre, mon roman, je passe à la fiction. » Comment ça se fait, toi, dans ta tête ?
Et bah, en fait, je pense que la fiction, bah, ça vient d'abord de cette histoire de récit manquant, parce que je crois que c'est Toni Morrison qui disait qu'on se mettait à écrire parce que, justement, il y avait ces récits manquants. On se rendait compte et on se dit « Bon, à un moment, ok, je vais me lancer, ça sera peut-être nul, mais je vais essayer de faire un de ces récits manquants. » Pourquoi la fiction ? Parce qu'en fait, quand t'es journaliste, le réel s'impose toujours à toi, et déjà c'est limité dans le présent. Et là, moi, c'est vrai que mon roman, il se termine en 2045, donc j'avais envie de pouvoir suivre mes personnages sur très longtemps jusqu'à, voilà, 2045, donc ce que je ne fais pas, évidemment, dans mes articles. Et aussi, je voulais pouvoir faire croiser plein de destins très, très différents, ce que je n'aurais pas pu faire avec le réel, enfin, si, ce que j'aurais peut-être pu faire, mais ce qui m'aurait pris plusieurs vies, en fait, avant de le faire. Et là, dans l'imaginaire, tu peux le faire tout de suite. Et c'est vrai que... alors, ce roman, il est parti d'un point de départ assez bizarre. Il est parti de ce fameux personnage Clément qui se prend pour le chien de Houellebecq et qui est obsédé par le grand remplacement. Et donc, qui est... très raciste et qui, en fait, me détesterait, vous détesterait, détesterait tout ce que nous représentons, ce grand remplacement. Et en plus, le livre est sorti en pleine campagne électorale qui était quand même assez terrible. J'avais envie de comprendre, en fait, ce mécanisme qui amène à cette détestation, en fait, de l'étranger, de l'autre. Parce que c'est quelque chose, je pense, qui aussi m'interroge, me fascine au sens, j'ai envie de le comprendre, que ce soit en tant que romancier ou en tant que journaliste, on a envie de comprendre ce qui nous est le plus étranger. Et donc, en fait, bizarrement, c'est pas du tout parti de la famille Truong, qu'on pourrait dire, qui m'est plus familière. C'est parti de ce personnage qui pourrait sembler le plus lointain de moi, mais que j'ai fait voilà grandir dans la Sarthe, et où j'ai injecté aussi beaucoup de choses de moi, notamment, tu vois, cette obsession pour l'histoire, la généalogie. C'est quelque chose que j'avais très, très fort quand j'étais petite, parce que justement, j'avais l'impression que nous n'avions pas d'histoire. Voilà, en tant que...
Et tu t'intéressais comme lui à l'histoire, justement, de la Sarthe, du Mans,
oui,
et des châteaux.
Tu vois, oui, c'était vraiment grotesque, je sais.
Mais
j'étais obsédée par les histoires de ducs, de rois, de princesses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'adorais tout ce qui était arbre généalogique, je l'avoue. Parce que justement, dans les arbres généalogiques, tu peux remonter des siècles et des siècles avant. Et donc, de savoir qu'il y avait des gens qui étaient capables de remonter leur famille jusqu'au Moyen-Âge, c'était quelque chose qui me fascinait totalement. Et donc, quand j'étais assez jeune, j'ai lu, par exemple, les Mémoires de Saint-Simon. Et dans les Mémoires de Saint-Simon, il y a plein d'arbres généalogiques. Et il remonte, il est très snob, Saint-Simon. Donc, c'est la cour de Louis XIV. Mais donc, c'est des familles, des Guises et autres, mais qui remontent jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est ça qui me fascinait, en fait. Tu vois, c'était comment l'histoire avec un grand H se mélange avec ces histoires de ces gens qui étaient capables de faire remonter leur nom des siècles et des siècles auparavant. Et moi, à côté, je ne savais même pas le nom de... Enfin, pour plein de raisons, parce que les noms changent, les noms... Et que, par exemple, mes grands-parents, je les appelais... Ben, moi, enfin, voilà, grand-père, je ne connaissais même pas les noms de mes grands-parents.
Ça veut dire grand-père de l'intérieur et de l'extérieur pour les familles, enfin la famille de ta mère, de ton père.
Ouais. Exactement. Je comprenais même pas comment s'appelait mon père, parce qu'en fait, son prénom c'est Anzom, mais prononcé en, avec l'accent du sud, c'est Yom. Et les Français l'appelaient Zoom, donc ça n'avait rien à voir. Donc je n'arrivais même pas à savoir comment
mon père
s'appelait.
Puis en plus, tu parles de la manière dont les dénominations sont liées au patronyme des parents, et du coup, ça correspond pas à la manière dont on nomme les,
tout à fait.
Les enfants.
Même dans la famille, on allait l'appeler oncle numéro 1, oncle numéro 2. Donc déjà, rien que le nom, le prénom, ça voulait rien dire pour moi. Et donc, voilà, quand je voyais cet autre univers où il y avait cette histoire, oui, ça me fascinait. Donc, parce que de façon totalement erronée, j'avais l'impression que nous n'avions pas d'histoire. Et aussi parce que je pense qu'il y a... On est habitué, en fait, à ce qu'il y ait un centre, un regard occidental qui est un peu le centre de tout et qui, voilà, on va dire que c'est le baromètre pour toute la littérature, c'est le baromètre pour toute l'histoire et les autres histoires sont périphériques. Donc, on va les connaître beaucoup moins parce qu'il y aura moins de matériel pour les connaître et elles vont nous sembler marginales et périphériques. Et moi, c'est même pas qu'elles me semblaient marginales et périphériques, c'est qu'elles n'existaient tout simplement pas. Donc, oui, j'étais parce que je pense que je recherchais tout simplement des racines. Et il m'a fallu du temps hein, pour trouver ces racines. Mais à cette époque-là, je recherchais des racines et donc je les cherchais ailleurs.
Eh bien, on va te retrouver tout de suite, Doan, mais avant, on fait une petite pause.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité public. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
De retour dans Kif Taras avec Doan Bouy. Nouvelle question, dans Le silence de mon père, ton premier récit autobiographique, tu relates un incident avec l'administration, le service central d'état civil de Nantes, bien connu des personnes nées à l'étranger, entre guillemets, ou des territoires anciennement sous administration française, une façon pudique de parler de la colonisation. Le problème s'est posé un jour quand tu as perdu ta carte d'identité française, tu as voulu la renouveler et on t'a demandé de prouver que tu étais française. Et tu dis, ni mon passeport, ni mon extrait de naissance ne me permettraient de délivrer une carte d'identité. J'étais française, née en France, mais de parents étrangers, la dame exigeait un certificat de nationalité française. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment et sur ce que tu as ressenti devant ce qui semble être un non-sens administratif, mais en vérité très révélateur d'une contradiction très contemporaine ?
Alors, ce moment a été vraiment un bouleversement pour moi, parce que j'avais l'impression que toute ma vie, j'avais fait tellement d'efforts pour être française, parfaite française. Et là, c'était un peu comme si toute cette imposture tombait et que, voilà, la guichetière me disait, ben non, en fait, vous n'êtes pas une vraie française. Et en plus, donc c'était en 2007 et c'était une époque où donc il y avait Sarkozy et il y avait énormément de débats sur l'identité nationale et donc je couvrais ces débats sur l'identité nationale. Et c'était très étrange parce qu'en fait, dans ces débats sur l'identité nationale où on parlait de la France judéo-chrétienne et autres, en fait, je passais mes journées à entendre une définition de la France qui ne m'incluait pas. Ce qui était quand même assez déroutant. Et donc, ça s'est corroboré avec cette expérience. J'ai mis 9 mois, en fait, à récupérer des papiers, avec à chaque fois, en fait, j'étais projetée à mon faciès, c'est-à-dire que j'avais beau montrer mon passeport, je me rappelle très bien qu'une fois, la guichetière a commencé à me parler très très lentement en me demandant « Est-ce que vous parlez français ?» Donc voilà, et je sais pas, elle avait tout de suite imaginé que j'étais... Et puis à un moment, ça s'était même terminé par « Oui, bon, bah, écoutez, parce que je venais de me marier, écoutez, si vous êtes mariée, essayez de vous naturaliser. » Ben non, je vais pas essayer de me naturaliser, j'ai mon passeport français. Donc... Et avec chaque fois cette folie administrative de te redemander d'autres papiers qui n'existent pas, parce que, par exemple, mes parents, quand ils se sont mariés, il y avait encore le Sud-Vietnam et le Nord-Vietnam, des entités qui n'existent plus. Donc, quand on te demande des papiers d'un pays qui n'existe plus, évidemment, tout ça est totalement impossible. Donc, en fait, il y a toute l'histoire de ta famille qui remonte dans ces moments où tu dois faire les papiers. Je crois que c'est Romain Gary qui avait cette jolie expression, il parlait de preuve d'existence, voire de preuve d'inexistence. Et effectivement, je pense que les papiers, c'est à ce moment-là où tu as l'impression que tu dois prouver que tu dois exister. Et donc, quand on te dit non, à chaque fois, c'est comme si on te disait que tu n'existais pas. Et en plus, c'est vrai que bon, j'ai énormément travaillé sur cette question des migrations, des réfugiés. Et je pense qu'en fait, pendant longtemps, j'avais cette empathie parce que je sais d'où je viens. Et en même temps, j'étais dans cette position très confortable d'une journaliste qui avait les bons papiers, si tu veux. Parce que, voilà, face à toutes ces personnes que j'ai pu voir aux frontières, qui n'ont pas le bon papier, qui n'ont pas les bons visas, ben moi, avec mon passeport français, ben je pouvais passer les frontières sans problème et je n'avais pas de problème, moi, avec les gardes frontières. Et en fait, j'ai vu à quel point c'était facile de passer de l'autre côté. Que ben finalement, il suffisait de ça.
C'est précaire, en fait, en équilibre.
C'était précaire. Ouais. Et qu'en fait, donc, voilà, je me sentais en sécurité parce que j'étais la bonne immigrée avec les bons papiers. Et il suffisait de si peu perdre ta carte d'identité pour que dans le regard de l'autre, je devienne une mauvaise immigrée. Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup vivent. C'est-à-dire que, bon, et évidemment, en tant que réfugié asiatique, on te projette toujours cette image de « tu es le bon immigré ». Donc, le nombre de fois, on m'a dit « ah, mais vous êtes tellement travailleur ». Ça veut dire quoi, vous ? Enfin bon, c'est bon, je l'ai entendu même avant même que les gens me parlent. Parfois, ils me connaissent pas du tout et ils me disent bravo, vous êtes vraiment très travailleur. Je pense, vous savez, je connais, je vais souvent dans ce restaurant et vraiment, bon, j'entends
c'est
souvent,
fou, en fait.
J'entends souvent ça. Donc, cette espèce de cliché de voilà, on est très. Puis
vous êtes tous les mêmes, quoi.
Des fourmis.
Il va dans un resto, voilà, il croit qu'il t'a envie de connaître, tu vois.
Des fourmis très travailleuses. Donc, voilà, c'est. Et en même temps, on le sait très bien, la mondialisation a fait qu'il y a eu cette peur sur la Chine. Donc, j'ai aussi entendu le « vous nous piquez nos emplois » et le coronavirus, voilà. Au départ, qui était vu comme, voilà, on les a vus, les graffitis, corona chinois. On partage, il y a des bons immigrés, des mauvais immigrés. Mais en fait, ces frontières, elles sont très mouvantes. C'est très facile de passer dans cette espèce d'Hadès du mauvais immigré.
Mais justement, pour rebondir à ce que tu viens de dire sur cette espèce de sentiment d'être étranger éternellement et qu'on nous projette toujours une forme d'extranéité, en fait, au peuple auquel on appartient, dans ton travail, il y a une forme de dénonciation assez permanente du racisme anti-asiatique. Enfin, c'est pas comme ça, tu dis pas ça comme ça, mais en fait, tu le sens, que ce soit dans le silence de mon père, quand tu parles de ta famille, de ton enfance. Dans La Tour, il y a énormément de références. C'est truffé d'anecdotes qui sont de la fiction dans ton livre, mais on sait que c'est vrai, on sait que ça arrive à quelqu'un qu'on connaît, on sait que ça a été lu dans un magazine ou un journal qui en a parlé, donc c'est des choses qui sont vécues. Et donc, c'est extrêmement important et politique. Tu as dit, donc, depuis la pandémie, ça s'est accru. Enfin, il y a eu comme une levée de couvercle sur ces sentiments d'hostilité, hein, qui étaient peut-être
plus
parfois cachés.
Plus un attentat aux États-Unis, quand même. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas juste des mots, parce que quelqu'un dit « Oh, vraiment, ça va, c'est juste des mots ». En fait, on a vu aux États-Unis que les mots et la haine pouvaient conduire vraiment à des victimes et à un attentat raciste. Donc, il y a une corrélation quand même.
Et je me souviens donc de cette tribune que tu as écrite en 2018, C'est pénible si Chinois qui n'ont pas d'humour, à la suite de la polémique du sketch dit des Chinois de, des humoristes Kev Adams et Gad Elmaleh. Donc ça a été, enfin je me rappelle, enfin j'étais très touchée par ta tribune parce que tu as mobilisé des choses, t'en parles déjà dans Le silence de mon père de Lucky Luke. Dans Lucky Luke, il y a un blanchisseur. Ouais. Et moi, mes parents, ils avaient une blanchisserie, donc en fait j'étais très très touchée par ce visage. Et je voulais te demander, est-ce que c'est compliqué pour toi en tant que journaliste? Parce que le journalisme, c'est l'objectivité, c'est la neutralité, c'est ce qu'on dit des journalistes. Quand tu écris une tribune où tu parles du fait que tu es asiatique, quand tu écris un livre où tu parles de ton père, comment tu fais pour jongler entre ce « je » et ce « on » ?
C'est vrai que c'est pas évident et que je le fais pas si souvent que ça, tu vois, d'écrire des billets à la première personne à cause de cela, justement. Alors, je crois pas à l'objectivité pure en journaliste, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, en fait, dans un même endroit, tu vas mettre deux journalistes qui ont deux vécus différents, ils vont voir les mêmes personnes, ils vont être exactement au même endroit, ils écriront pas du tout le même papier. Donc, je crois pas du tout à cette pseudo-objectivité. Mais en revanche, alors, c'est vrai que si j'évite d'écrire trop en billet, en jeu, c'est pour une raison très simple, c'est que comme je veux pouvoir continuer à parler à des personnes qui me sont très étrangères, des suprémacistes, des néo-nazis, parce que j'ai envie de comprendre ça, donc je veux pas que quand ils me googlent, ils me cataloguent tout de suite, parce qu'ils font tout ça maintenant. Donc, en fait, souvent, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de juger. Quand tu rencontres quelqu'un, voilà, donc, qui t'est si étranger, tu n'as pas besoin de dire « je ne suis pas du tout d'accord avec lui ». Il suffit, en fait, de lui tendre le... Tu vois, tu écoutes ce qu'il dit, en fait, on comprend, on arrive à se positionner. Donc, moi, enfin, c'est ma façon d'être, je ne suis pas trop dans le jugement. Alors, après, sur ces sujets-là, oui, j'avoue, je ne sais pas trop comment me positionner, parce qu'en même temps, évidemment, je suis concernée personnellement. Et il y a un truc très bizarre sur ce racisme. Je me rappelle très bien quand j'ai commencé à faire la promotion après Le silence de mon père, quand on me demandait « est-ce que vous avez été victime de racisme ?» Mon premier réflexe était de dire non, parce que déjà, quand t'entends le mot « victime de racisme », enfin, ça te semble trop, voilà. Et puis, je racontais deux, trois anecdotes. Je racontais comme, je me rappelle, j'avais vécu un moment dans un appartement et je fais du piano. Donc, ma voisine du dessus supportait pas que je fasse du piano, même l'après-midi. Donc, dès que je faisais du piano, elle mettait son balai. Et donc, après, je me suis mis à jouer en silencieux, donc avec mon casque. Et à chaque fois que je me mettais à jouer en silencieux avec mon casque, pareil, j'entendais le balai. Donc, je comprenais pas trop, comme si elle guettait n'importe quel bruit. Et donc, un jour, elle est venue toquer à la porte et elle commence à me dire « Non, mais c'est pas possible, le vacarme que vous faites. J'entends tout le temps un tac, 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 tac. On dirait que vous avez une machine à coudre, des machines à coudre. »
T'avais un atelier de confection clandestin. Donc,
elle était persuadée qu'on avait un atelier de confection clandestin. Après, elle a dit aux gens de l'immeuble qu'il y avait plein d'hommes qui venaient dans le... Donc ça, c'était le deuxième cliché. Donc nous étions des... Je vivais avec ma sœur. Donc nous étions des prostituées qui donc recevaient des hommes. Et le pire, c'est que son obsession a continué quand on est parti. En fait, c'est que quand on est parti, elle a continué à mettre des petits mots dans l'immeuble. Dites aux Asiatiques du 5e d'arrêter leur affaire. On n'était même plus là. Donc bon, quand je raconte cette... Donc ça me fait rire. Enfin bon, même si c'était pas drôle à l'époque... Ben de fait, c'est du racisme. Mais j'avais du mal, en fait, à le dire tel quel. Parce que je pense que, justement, j'ai tellement grandi en me disant qu'il fallait être une bonne Française. Et donc, parler de racisme, c'est pour ça que j'avais mis dans cette tribune « C'est pénible, c'est Chinois qui n'ont pas d'humour ». Parce qu'évidemment, quand tu dénonces le racisme, tout de suite, tu es dans le rôle de l'emmerdeur. Tu es dans le rôle de celui qui critique. Et donc, tu es dans le rôle de... Ben, du mauvais français, de celui qui n'est pas un bon immigré. Donc, on a l'impression qu'en fait, si tu veux être un bon immigré, en fait, il faut te taire et puis il faut dire... en fait, à la limite, quand tu commences à parler, il faut juste dire « Vive la France, vive la République, merci de m'avoir, accueilli ». Moi, j'ai déjà eu ça, en fait. Après, mon livre, pour le coup, le « Silence de mon père », j'ai pas l'impression que ça soit un livre... qui soit revendicateur ou militant. C'est pas un livre politique, c'est un livre intime qui raconte une expérience intime. Mais parfois, je peux avoir des réactions où les gens vont me dire, toujours avec cette idée de bon immigré, mais c'est bizarre, je ne comprends pas, pourtant, vous avez été vraiment très bien accueillis. Donc,
ouais, c'est, bah c'est, en fait, c'est toujours.
Accueilli, ouais, c'est mais ça. Qui que quoi. Enfin, ouais. Moi, je suis née en France déjà. Donc, je suis pas une immigrée. Bon, mon père a fait des études en France. Enfin, c'est très bizarre. Donc, en fait, c'est effectivement comme si on devait toujours payer,
une faire allégeance.
Faire allégeance. Et dès qu'en fait, on parle publiquement, on devrait commencer à dire, merci à la République française.
C'est formidable, tout est formidable.
Sinon, en fait, on est un mauvais français. Et pour le coup, j'aime la France. J'aime tellement la littérature française. J'aime, voilà, mais c'est très bizarre d'être assigné toujours à cette position de gratitude éternelle où en fait, juste le fait de rappeler que oui, bien sûr, comme tellement de gens, j'ai pu être confrontée au racisme. D'ailleurs, voilà, le fait que j'ai eu du mal à même employer ce mot victime de racisme, bon, je l'ai entendu, j'entends très souvent. Bon, c'est pas, voilà, c'est comme ça. Mais c'est déjà vu comme une critique du système. Bon, ça, c'est quand même assez déroutant.
Alors, on va écouter un son.
Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leurs livres sacrés, traversé les rizières jusqu'au grand fleuve Salé, sans un mot, sans un cri. Ils ont fermé leur visage de miel, les yeux.
Alors, c'est un plongeon dans le passé en 1985 avec le groupe Gold et Plus près des étoiles. Alors, Doane, je respecte énormément ton travail. J'ai lu ton livre avec attention, mais l'information qui m'a le plus scotchée, c'est ce dont parlait cette chanson de Gold que j'ai entendue. Je savais pas du tout que ça parlait.
Mais moi non plus, je savais pas.
Et donc, j'ai halluciné. Je pense que c'est vraiment.
Alors, je vais citer Doane, lui, dans son livre La Tour. Donc, un groupe toulousain s'aventura à évoquer les Boat People avec la chanson Plus près des étoiles, sortie en 85, la même année qu'Éthiopie. Donc, c'était un thème récurrent, a priori. Ça, c'est
de
ça,
sauver
c'est
les gens qui souffraient dans d'autres pays.
Le groupe Gold évoquait des visages de miel qui, sans un mot, sans un cri, sans amour, sans un cri, avaient traversé des rizières et des villages brûlants. Voilà. Donc,
mais franchement, j'ai halluciné parce que
moi,
j'avais jamais compris.
Moi non plus, j'avais jamais compris.
En plus, c'est assez gay comme. Il raconte une tragédie sur un petit ton un petit peu enjoué.
Je l'ai découvert après, en fait, parce que je m'étais dit, il n'y avait jamais eu de chanson sur les Boat People. Je me suis posé la question. Et là, je regarde, et là, je tombe sur... Je me rappelais de cette histoire, mais j'avais jamais entendu les visages de miel. Après, c'est vrai, peut-être parce que je ne m'identifie pas comme visage de miel.
Je ne comprends pas, Doane.
Non, mais c'est ce que tu dis. Tu dis, personne ne hélait jamais quelqu'un en appelant visage de miel.
Personne n'est jamais... Citron, j'ai eu le droit. Enfin bon, plein de choses comme ça. D'ailleurs, c'était plus souvent citron que miel. Donc la miel, je dois avouer que dans les métaphores alimentaires, il y avait une certaine créativité de la part de Gold. Et c'est vrai qu'après, j'ai regardé toutes ces chansons. Et c'est marrant, hein. Il y avait beaucoup de métaphores alimentaires, tu vois, sur où il y avait couleur café, pain d'épices. C'est vrai que souvent, j'ai remarqué que ces histoires de couleur de peau étaient liées à des métaphores alimentaires. Je pense qu'on pourrait faire une espèce de classification.
Ouais, on pourrait ouvrir
sacré,
une boutique de glace.
Salé, sucré, c'est...
Et donc, quand tu parles de donc, ce tube de l'époque, tu parles des parents truands dans la tour Melbourne. Et donc, à la fois dans la tour et dans le silence de mon père, il y a une place pour ses parents donc, dont parle Gold, c'est-à-dire qui viennent de loin et qui sont déracinés. Et je voudrais citer des extraits du silence de mon père qui m'avait beaucoup marqué et qui, je pense, explique beaucoup de choses chez les parents réfugiés d'une manière générale. Hein, et tous immigrés, réfugiés. Enfin, tu dis, dans l'exil, un père n'a plus de gloire. On lui a coupé les ailes, comme l'albatros de Baudelaire. Il s'effondre, il n'est rien. Et quand il se relève, il est l'homme qui se bat contre des moulins. On ne le comprend pas. On le toise de haut. Il rentre, harassé par le travail, presque un étranger dans sa propre maison. Il ne peut plus raconter des histoires à ses enfants. Ils ne comprennent plus sa langue. Et tu dresses aussi un portrait des mères, et que je trouve est extrêmement juste aussi. L'exil, au contraire, galvanise les mères. Elles se jettent dans le combat avec férocité, avec hargne et ardeur. Elles ne vivent plus que pour leur progéniture. Elles se fichent bien que leurs enfants soient fiers d'elles. Elles seront fières pour deux, pour trois, pour mille. C'est comment est-ce que l'exil traite les parents? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'exil retire comme dignité, en fait, au père dans cet univers aujourd'hui, enfin depuis longtemps, où on lit la masculinité avec le pouvoir, la force physique. D'ailleurs, c'est Borette Lee, une professeure d'histoire de l'art et culture visuelle du Sud-Est asiatique à l'Université de Santa Cruz, qui a écrit sur le trauma intergénérationnel cambodgien et qui parle du fait que les corps des hommes cambodgiens a été pénétré par l'ultra-libéralisme du capitalisme. Et donc, en fait, ces corps étaient associés traditionnellement au pouvoir militaire, avec la domination sexuelle, le travail de la terre et de subvenir aux besoins de la famille. Et que donc, en fait, la pauvreté aujourd'hui, dans ce monde de masculinité monétaire, elle appelle ça, en fait, ils sont incapables de nourrir leur famille et incapables d'être homme au sens traditionnel. Et donc, c'est vraiment ça que on retrouve nos pères amoindris, en fait, par ce parcours qui leur a retiré ce qu'ils faisaient, qu'ils pouvaient subvenir aux besoins de leur famille, et les mères qui ont compensé, en fait, la place qui est laissée en faisant le double pour donc sacrifier ce qu'elles avaient donné à leurs enfants. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de familles, qu'elles soient asiatiques ou pas, d'ailleurs, hein, cette image des parents.
Oui, parce qu'en fait, on vient de sociétés patriarcales, je pense. Donc, dans des sociétés patriarcales où le père, c'est celui qui transmet le nom, un lieu, une maison, tout ce genre de choses. Donc, en fait, ces sociétés patriarcales, elles vont aussi avec le fait de ne pas bouger, en fait, de rester, d'être enraciné dans un lieu. Et donc, le père qui a tout ce rôle symbolique-là, effectivement, quand il est obligé de quitter son pays, il ne peut même plus faire ça, il ne peut plus transmettre. La ligne de transmission a été complètement brisée. Surtout qu'au Vietnam, il y a tout ce truc où le fils, le père doit rendre hommage aux ancêtres, mais au sens même de lieu, en fait, l'hôtel des ancêtres, il ne va pas bouger, quoi. Alors que la mère, les femmes sont toujours là pour le care, comme on appelle le soin. Donc, finalement, quel que soit l'endroit où elles vont continuer à être dans le soin et dans cette espèce de sacrifice. Et donc, peut-être qu'effectivement, elles vont... Je ne sais pas si on peut dire qu'elles vont mieux s'adapter, puisque ça veut dire aussi beaucoup de souffrance, de sacrifice. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai souvent vu. Elles ne vont pas se permettre d'être dans la nostalgie et d'être dans le regard en arrière, parce qu'en fait, elles n'ont pas le temps.
Merci beaucoup, Doane. Malheureusement,
merci,
on doit s'arrêter
vous.
Là. On aurait bien aimé continuer. Il y a tant de choses à dire sur ton travail et sur ta perception des conséquences multiples de ces vies d'exilés. Donc, c'est la fin de ce numéro de Kif Taras où nous avons eu la joie de recevoir Doane Bui. Son dernier ouvrage, La Tour, est disponible aux éditions Grasset. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, si vous avez des commentaires, des questions, des expériences à partager. Si vous êtes choqué, si vous êtes concerné, n'hésitez pas.
Écrivez-nous à Kif Taras @binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Kiftaras ou nos comptes @Kiftaras sur Twitter, Facebook, Instagram. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée par Elisa Grenet. La réalisation est signée Adèle Itel El-Madani.
Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition et merci à Jeanne Longini et à Lise Niederkorn pour la communication et la présence sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace.
Merci Rokaya.
Merci Doane.